Bonjour, Éric Godichaud, à Bâton Rompu, sur Radio Grand Ciel. Aujourd'hui, une émission qui coulera de source. Nous marcherons dans les pas de Gaston Bachelard, qui, dans 4 ouvrages, s'attacha à la psychanalyse des 4 éléments. Il montre que la science, loin d'être contradictoire avec la poésie, c'est-à-dire la manière dont l'homme habite le monde, est une étape essentielle à cette rêverie autour de la matière qui la compose et qui mène à la science moderne dite objective. La science est donc la grande sœur de cette rêverie intime autour de l'eau, puisqu'aujourd'hui, nous parlerons de l'eau, mais aussi du feu, de la terre et de l'air dans nos 3 prochaines émissions. Bachelard, comme Virgile accompagnant Dante, sera notre guide. Nos propres rêveries seront ponctuées, comme des ronds dans l'eau, par une causerie, elle-même coupée en 3 parties, causerie que donna pour la radio française Gaston Bachelard dans les années 50. Bachelard, anobli par une longue barbe de prophète, un visage doux où brillaient des yeux vifs d'une intelligence sans afféterie. Bachelard, amoureux des livres et des poètes, à la voix chantante, mélodieuse comme le courant d'une rivière, rocailleuse comme celle de Colette, nous fait entrer dans le laboratoire alchimique de ses pensées.
Et profond. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre causerie à la poésie de l'eau. La poésie de l'eau. Il semble qu'on n'ait même pas besoin de la définir. Quel est l'homme poétique qui ne répondrait pas à l'appel des sources et des fontaines, qui ne garderait pas les souvenirs émus de l'étang et de la rivière? Cet accord unanime de toutes les âmes poétiques est déjà un gage de la réalité de notre problème, de l'adhésion que nous proposons à une poétique des éléments. Nous allons voir que l'attachement que nous avons à la beauté de l'eau est fort de 1000 liens. Nous allons voir s'accumuler les attraits les plus divers, les attraits les plus contraires, de sorte que notre amour pour l'eau est peut-être le plus ambivalent des amours. Ainsi, l'eau sera aimée dans ses reflets et dans sa profondeur, dans son repos et dans son tumulte, dans sa substance et dans sa force. Les dialectiques se multiplient au point qu'il faudrait une véritable encyclopédie de l'eau pour les analyser toutes. Le monde des reflets, que serait-il sans le miroir des eaux dormantes? Les hommes eussent-ils inventé des miroirs si la surface d'une eau tranquille ne leur avait pas rendu si fidèlement leur image? La psychanalyse a justement nommé, à partir d'une telle image passionnément contemplée, le complexe de Narcisse. Mais la psychanalyse, en multipliant les explications psychologiques, a, en cette occasion, intellectualisé les symboles. Elle a détendu les liens qui unissent les symboles secondaires aux symboles primitifs. Bref, la psychanalyse nous a écartés de la méditation de l'image primitive. Elle a, il faut bien le dire, dépoétisé l'image poétique fondamentale. Elle a perdu les valeurs de contact avec un élément radical de la poétique naturelle. Si nous revenions vraiment au miroir des fontaines, si nous vivions la poésie dans la nature, peut-être la contemplation toutes solitaires de nous-mêmes, dans la solitude des champs, perdrait-elle sa nocivité? Voilà précisément la grande leçon de solitude que donne la poésie des éléments, que donne la poésie de l'eau réfléchissante.
L'eau, comme l'a noté Bachelard, est une image de la pensée humaine et du rêve. Comme le rêve, elle coule. Proust, dans Du côté de chez Swann, développe une longue digression autour du cours d'eau qui, comme la psyché, se déploie à partir d'une source oubliée, que Freud désigne sous le nom de refoulement originaire. Le ruisseau chez Proust s'appelle la Vivonne. Vivonne fait penser à la fée Viviane et approximativement fait écho, les cercles en expansion à la surface de l'eau, à la Vibonne, Vitua Bona de Dante, vie réenchantée sous le regard maternel et marial de Béatrice, la femme aimée, transcendée. Proust fait de ce petit ruisseau le lieu de la petite enfance, et même d'avant la naissance, où nous nagions dans le paradis liquide, dans la vérité du monde. Mais avant de nous plonger dans ces rêveries, une magnifique illustration musicale, la musique de l'eau, dans le Vanuatu, sur l'île de Gawa, en Océanie, les femmes forment un cercle dans l'océan, elles chantent et se servent de l'eau comme d'un tambour. Le plaisir, la nature vitale de l'eau, dans une culture où l'océan tient la première place. Bientôt, le cours de la Vivonne s'obstrue de plantes d'eau. Il y en a d'abord d'isolées, comme tel nénuphar à qui le courant, au travers duquel il était placé d'une façon malheureuse, laissait si peu de repos que, comme un bac actionné mécaniquement, il n'abordait une rive que pour retourner à celle d'où il était venu, refaisant éternellement la double traversée. Poussé vers la rive, son pédoncule se dépliait, s'allongeait, filait, atteignait l'extrême limite de sa tension jusqu'au bord où le courant le reprenait, le vert cordage se repliait sur lui-même et ramenait la pauvre plante à ce qu'on peut d'autant mieux appeler son point de départ, qu'elle n'y restait pas une seconde, sans en repartir par une répétition de la même manœuvre. Je la retrouvais de promenade en promenade, toujours dans la même situation, faisant penser à certains neurasthéniques au nombre desquels mon grand-père comptait ma tante Léonie, qui nous offre sans changement, au cours des années, le spectacle des habitudes bizarres qu'il se croit chaque fois à la veille de secouer et qu'il garde toujours. Mais plus loin, le courant se ralentit. Il traverse une propriété dont l'accès était ouvert au public par celui à qui elle appartenait et qui s'y était conclu à des travaux d'horticulture aquatique, faisant fleurir, dans les petits étangs que forme la Vivonne, de véritables jardins de nymphéas. Comme les rives étaient à cet endroit très boisé, les grands ombres des arbres donnaient à l'eau un fond qui était habituellement d'un vert sombre, mais que parfois, quand nous rentrions par certains soirs rassérénés d'après-midi orageux, j'ai vu d'un bleu clair et cru, tirant sur le violet, d'apparence cloisonnée et de goût japonais. Ça et là, à la surface, rougissait comme une fraise, une fleur de nymphéa au cœur écarlate, blanc sur les bords. Plus loin, les fleurs nombreuses étaient plus pâles, moins lisses, plus grenues, plus plissées, et disposées par le hasard en enroulements si gracieux qu'on croyait voir flotter à la dérive, comme après l'effeuillement mélancolique d'une fête galante, des roses mousseuses en guirlandes dénouées. Jamais dans la promenade du côté de Guermantes, nous ne pûmes remonter jusqu'aux sources de la Vivonne, auxquelles j'avais souvent pensé et qui avaient pour moi une existence si abstraite, si idéale, que j'avais été aussi surpris quand on m'avait dit qu'elle se trouvait dans le département, à une certaine distance kilométrique de Combray, que le jour où j'avais appris qu'il y avait un autre point précis de la Terre où s'ouvrait dans l'Antiquité l'entrée des enfers. À l'origine, un seul continent existait sur la Terre, la Pangée, entourée d'eau, puis peu à peu le continent fait d'une seule pièce et fracturé en plusieurs parties, se désolidarisant peu à peu au cours du temps. Si l'on regarde bien un globe, on peut reconstituer cet unique continent disparu. Les parties, aujourd'hui séparées, s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres. La vie est d'abord apparue dans l'eau. Le fœtus, avant de surgir à l'air, vit dans une caverne protectrice remplie d'une eau salée. L'enfant quitte l'eau où il respire grâce à sa propre mère, à travers la corde, ou cordon ombilical, pour le lieu d'abord hostile de l'air, dont il devra au prix d'une douleur et d'un cri se séparer pour faire entrer une première fois l'air dans ses poumons
pliés jusque-là. L'image naturelle véritable, celle qui étonne l'enfant,
redonnons la parole à Gaston Bachelard.
Associe en effet le reflet et la profondeur. Au sein de l'eau vraiment réfléchissante, nous découvrons une intimité, un être intime, un être profond. Edgar Poe a vécu avec la plus extrême intensité cette prise d'intimité où le miroir est vivant dans sa surface et dans sa profondeur. Mais l'eau profonde a bientôt une autre tonalité psychologique. Elle est sans doute la première image de la profondeur dangereuse, la grande et simple image de l'abîme. Sans doute la terre a ses crevasses et ses falaises, mais de tels abîmes, il semble qu'on puisse les explorer, les mesurer. Les abîmes de la terre ont une géométrie. Les abîmes de l'eau sont plus directs et plus simples. Ils donnent tout de suite l'image de l'insondable. L'eau est alors un mystère et un vertige. Elle attire et elle effraie. Si l'imagination ne s'arrête pas, le rêveur va voir la mystérieuse Ondine, la dangereuse Ondine. N'est-il pas étrange que la poésie soit en quelque sorte dialectisée, jusque dans ses fantômes, par la naïade et par l'Ondine, par Nausicaa et par Mélusine, par l'air qui a toutes les beautés de l'eau ensoleillée, et par l'air qui a toutes les dangereuses séductions des ténèbres vertes, comme disait Baudelaire, de l'inconnu des profondeurs. Les rêveries devant l'eau profonde ou devant le fleuve qui passe prennent souvent la teinte de la mélancolie et elles nous ramènent au souvenir des êtres disparus. Dans un livre sans doute trop simple, La mythologie du Rhin, le vieil écrivain français Saint-Tine rappelle un type de funérailles où l'on couchait le mort dans un tronc d'arbre, abandonné ensuite dans le courant du fleuve. Comment ne pas rapprocher cette lointaine coutume des légendes sur la barque des morts, légende qui émeuvent encore toute la Bretagne. Comment ne pas penser à la barque de Caron? Mais ces mythologies et ces légendes, le poète ne leur donne-t-il pas une vie nouvelle, une vie naturelle, en marge de toute érudition? Ne revivons-nous pas tous les adieux de notre vie dans un seul grand vers comme celui de Baudelaire? Ô mort, vieux capitaine, il est temps, le vent l'ange. De tels vers ont une résonance agrandie si on leur donne tout leur passé de légende et d'image, si l'on retrouve les songes de l'homme devant les flots de la mer, devant le fleuve qui jamais ne reviendra à sa source. Ces grandes images simples, ces images banales, elles prennent une vie nouvelle et singulière dès qu'un grand poète leur rend leur vertu élémentaire, leur puissance cosmique élémentaire.
L'eau m'a toujours fasciné. J'habitais à Montbazon près de l'Indre. Le chemin que je prenais tous les jours pour aller à l'école à pied passait inévitablement par le franchissement du pont aux trois arches qui enjambait la rivière. À travers la grille, je regardais passer l'eau verte d'un vert émeraude qui me transportait en Inde par sa coloration évoquant la pierre précieuse si prisée des Maharajas. La nuit, dans mes rêves, je plongeais dans l'eau froide et lustrale, à la nage passais le petit coude qui se perdait au lointain et plongeais alors dans ce sommeil profond, eau noire sans rayons. L'élément liquide a ceci de particulier qu'il est transparent, d'où la couleur de l'eau qui n'a pas de couleur et qui provient de la réfraction de la lumière à travers sa surface. Les fonds, ainsi, prêtent leur couleur à l'eau. Le vert de l'Indre était dû à la profusion des algues qui, comme des chevelures, suivaient le courant. L'eau peut prendre n'importe quelle forme. Elle se déplace. Il existe des eaux dormantes, mais elles évoquent l'autre côté de l'eau, le versant inquiétant et dangereux.
En y mettant les justes nuances, le psychologue, conscient du rôle de l'instinct poétique, découvrirait facilement le caractère particulier des complexes poétisants. Il pourrait, par exemple, dans les images littéraires, distinguer le complexe de Caron et le complexe d'Ophéline. Il comprendrait pourquoi Lamartine a pu appeler l'eau l'élément triste. Il comprendrait, en allant à l'extrême de cette tristesse, pourquoi, pour certains rêveurs, l'eau dormante est le cosmos de la mort. Pour ces rêveurs, l'eau est nocturne. Elle garde en son sein de la nuit et de la mort. Ainsi, pour Paracelse, la lune imprègne la substance de l'eau d'une influence délétère. L'eau, longtemps exposée aux rayons lunaires, reste une eau empoisonnée. Ces images matérielles, si fortes dans la pensée paracelsienne, sont encore vivantes dans les rêveries poétiques d'aujourd'hui. Le poète Victor-Émile Michelet n'écrit-il pas « La lune donne à ceux qu'elle influence le goût de l'eau du Styx ». Oui, on ne se guérit jamais d'avoir rêvé près d'une eau dormante. Mais l'eau enchaîne aussi bien les images de la vie que les images de la mort. C'est précisément en raison d'un tel double enchaînement que l'eau est un élément éminent de la poésie universelle. L'eau, comme tous les éléments, donne prise à de multiples ambivalences, ou pour mieux dire, elle concrétise l'ambivalence qui vit au cœur de l'homme. Elle est, dans les beaux jours de la vie humaine, la substance de vie. Elle est le lait de la terre. D'innombrables variations animent ce thème général de la maternité des eaux. Des références à l'alchimie pourraient ici être données sans fin. On écrirait aisément tout un livre, par exemple, en exposant les principes des eaux de jouvence. Mais là encore, comme dans le cas du complexe de Narcisse, il faudrait ne point se complaire dans l'image métaphorique. Il faudrait donner moins d'attention au mélodrame trop voyant du vieillard rajeuni. On restituerait alors à l'eau élémentaire, à l'image matérielle et cosmique de l'eau élémentaire, une force de conviction qui traverse tout le psychisme, allant du fond même de l'inconscient jusqu'aux satisfactions sensibles les plus claires. Et c'est ainsi que, justement, Paul Claudel bouscule toutes les métaphores superficielles en s'écriant dans les grandes odes « Vos sources ne sont point des sources, l'élément même, la matière première, c'est la mer, je dis, qu'il me faut. » Ainsi, dans le style de la psychanalyse, l'eau de jouvance est le symbole du retour au sein maternel. Elle est une marque, entre beaucoup d'autres, de la primitivité des images maternelles de l'eau. On retrouverait la même hiérarchie d'images si l'on étudiait les mythes de purification, si divers dans leur nuance, si semblables dans leur fond. Pour toutes ces raisons, nous nous croyons fondés à dire que l'eau est un véritable élément psychique, un élément qui amasse les images dans nos rêves comme dans nos pensées. Un élément qui règne dans notre conscience comme dans notre inconscient. Un élément que nous aimons en nous et hors de nous. Une boisson et un filtre, une réalité et une puissance. En suivant les images de l'eau, le poète est assuré de trouver un élément de la poésie universelle.
L'eau peut être dangereuse, inquiétante, mais elle peut aussi reposer. Lorsqu'on pêche, le bouchon coloré produit un état de fascination qui se rapproche d'un effet hypnotique. Pendant des heures à fixer cette petite bouée, c'est alors un pur morceau de bonheur à l'état pur que rien ne peut troubler. Pour ma part, lorsque j'imagine le bonheur, la liberté, la réalisation d'un désir, une fontaine soudain apparaît. Du tuyau en forme de triton, une eau pure et fraîche en sort. Le promeneur s'y désaltère. Contrairement à l'air qui ne fait que peu de bruit, seulement lorsque le vent se lève, l'eau fait ici une petite musique endormante, propice aux rêves, comme la voix d'une mère chantant une berceuse à son enfant. Et pour finir, une berceuse chantée par les pygmées Aka. Au mois prochain, pour le deuxième volet de notre série sur les quatre éléments, la Terre. Merci à Géraldine pour la programmation musicale et Simon à la technique.